Alors, petit rappel donc de la structure du troisième chapitre, puisque la dernière fois nous avions fini au verset 10. Cette structure du troisième chapitre, on pourrait l'appeler un résumé, certitude du retour du Seigneur. Hein, ça, on pourrait, ce sera un peu le résumé de ce chapitre. Gisèle, je ne sais pas, vous aviez un titre, hein, qui c'était quoi exactement là, ce que vous nous avez donné avant, le retour du Seigneur, ou
Oui,
c'est
le retour du
le
Seigneur.
retour du Seigneur. Hein. Voilà, alors c'est un bon résumé du chapitre numéro 3, donc qui vient conclure cette deuxième lettre de Pierre. On avait vu par rapport au faux docteur, un des traits des faux docteurs, c'est la négation de sa venue. Ça, c'était les versets 1 à 7, hein, donc du chapitre 3. Et puis ensuite, Pierre détaillait sur l'assurance de sa venue, hein, au contraire, les versets 8 à 10. Et nous allons voir maintenant un troisième sous-chapitre qui est Vivre pour sa venue. Ce sera les versets 11, presque jusqu'à la fin. Il n'y a que le verset 18, la deuxième partie du verset 18, qui termine simplement par une bénédiction. Donc ce soir, nous allons voir ce point, Vivre pour sa venue. Donc ces faux docteurs, pour eux, hein, si je fais un petit résumé, tout demeure comme autant d'avant. Il n'y a pas de question de s'inquiéter. Pierre, pardon, ensuite rappelait que pour le jour du Seigneur, que le jour du Seigneur, et c'est une assurance, hein, et que devant le Seigneur, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans sont comme un jour. Dieu compte pas forcément comme nous nous comptons. Et c'est vrai que la première génération attendait, les chrétiens fervents attendaient déjà le retour du Seigneur, et ils ont eu peut-être au début de la peine à comprendre tout le. Ben voilà, quelque part, peut-être ils étaient dans le sentiment pour certains que Jésus était en retard déjà, hein, de leur vivant, la première génération de chrétiens. Et puis après, ils ont petit à petit dû comprendre les choses aussi sous un nouveau regard. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On avait vu ça. On avait vu que les prophéties, souvent dans le Nouveau Testament, mais également dans l'Ancien Testament, elles peuvent passer d'une époque à une autre. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toute la chronologie dans les prophéties bibliques. Et on a besoin de faire un effort d'interprétation pour saisir à quel moment une prophétie, une partie d'une prophétie, pour quel moment cette prophétie elle va s'accomplir ou elle s'est accomplie. Et puis tout à coup, le prophète, hop, il peut vous embarquer dans un futur loin ou proche. Hein, maintenant, on ne sait pas, hein, quand Jésus va revenir. Peut-être sa venue est proche. Mais il peut parler tout à coup déjà des choses par rapport au millénium, hein, et puis même plus loin, parce que si on relit juste le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc le jour du Seigneur qui vient comme un voleur, ça c'est quand le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son Église. Et puis tout de suite, là, Pierre prophétise une époque beaucoup plus loin dans le temps. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Hein? Il y a vraiment, on est catapulté à une autre époque. C'est l'époque, une fois que Jésus a régné sur cette terre pendant 1 000 ans, après ce règne de 1 000 ans, cette terre, elle sera détruite, les cieux seront détruits, et Dieu recréera toute chose nouvelle, aussi avec une nouvelle Jérusalem.
Le millénium, c'est pas de la nouvelle terre déjà?
Non,
Non, ok.
non, non, non. Ce sera un temps où Dieu va restaurer les choses ici, où Jésus sera présent et régnera avec son peuple Israël et son Église. Bienvenue.
Salut les amis.
Excusez-moi du retard, mais c'était... j'ai pas pu faire autrement. Puis c'est mieux de ne pas venir. Quoi.
Pas de souci. Alors. Pas trop en retard, non, je suis au train. Juste rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Petit résumé. Donc, nous allons voir donc cette dernière partie, hein, vivre pour sa venue. Et puis, on peut lire les versets 11 et suivants, un peu comme d'habitude. Chaque personne lit deux versets. Et puis, oui.
J'ai une question, moi, je m'excuse, mais il semblerait quand même que dans ce texte, il y a les derniers jours qui viendront des moteurs, etc., des gens qui viendront plein de railleries. Et puis, il y a le jour du Seigneur au verset 10, qui est le jour du jugement, qui est le jour, d'après ma Bible, hein, qui dit que le jour du Seigneur est celui du jugement de Dieu sur la terre. L'expression renvoie ici au retour de Christ, à sa seconde venue, qui sera soudaine et terrible pour ceux qui ne croient pas en lui, si nous restons, etc., etc. Eux, ils donnent le jour du Seigneur comme étant, et ils citent donc les versets.
C'est plus loin que...
Ils citent les versets, donc, d'Ésaïe, Matthieu 24, etc.
Oui, c'est vrai que suivant quelle partie on interprète en premier, ça va donner un sens ou l'autre. Parce que par rapport à ce jour du Seigneur qui vient comme un voleur...
Alors ça, c'est la première venue de Christ.
Voilà. Mais là, même là, il dit c'est le retour en gloire du Seigneur. Ce qui n'est pas faux. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. C'est une abréviation aussi pour dire le jour du jugement. Hein. Par contre, en ce jour, les cieux passeront avec fracas.
C'est la fin.
C'est à la fin.
Oui, justement.
Et c'est vrai que c'est difficile. Hein.
Ouais,
c'est vrai que c'est intéressant l'interprétation là qui est donnée. Oui. Parce qu'on voit que sur le début du verset, on peut déjà en faire deux, puis les deux ne sont pas fausses. Mais ce qui est par rapport à la suite du verset, nous, on croit que ce sera une autre époque. Ce n'est pas quand Jésus-Christ vient en gloire sur cette terre que directement derrière, tout va être fracassé.
Il y a certains qui le pensent.
Oui.
Il y a certains qui pensent qu'après le retour du Seigneur, c'est bon,
c'est fini. Voilà.
Même des pasteurs, enfin pasteurs.
Tout à fait. Après, il y a plusieurs lignes d'interprétation.
Ça ne peut pas être comme ça. Tu sais pourquoi ? Il y a un passage qui est marqué dans la Bible.
Non, mais c'est moi, je ne le crois pas.
Au retour, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà. Là, alors, comment tu veux qu'il descende sur le mont des Oliviers et que tout se détruise avec fracas ?
Ça va pas. Au début, il prend l'église. Puis après, quand il y aura Armageddon et qu'Israël va crier à Dieu, là, il vient. Puis là, il arrive.
Là, c'est ça.
Après, le millénium, on va aller savoir à quel moment il se met.
Ouais, c'est pas évident.
Si 6000 ans est comme un jour, c'est peut-être pas un jour.
Alors, ça dit que le temps de Dieu n'est pas le même que celui de l'homme.
C'est comme le truc là, à la fin du millénium, où quand Satan est lié, tout ça, il est relâché, et puis il réunit les nations. Du moment qu'il n'y a pas de péché, qui c'est qui va séduire ? Voilà. Parce que c'est des gens qui sont nés pendant le millénium, qui n'ont jamais connu le péché, tout ça, comme nous, on le connaît.
C'est une interprétation, en effet. Moi, je pense aussi que c'est ça. Dieu va laisser libre encore les générations qui seront nées durant le millénium.
Ils auront jamais connu Satan et tout ça.
Et puis voilà, de se détourner de lui pour se mettre à la suite du diable. Ouais. Ouais, c'est surprenant, hein, c'est vrai.
Donc, le jour du Seigneur viendra et tout ce qu'on vient de lire avec fracas, ça n'a rien à voir avec quand il revient et qu'il pose des pieds sur le mont des Oliviers, à son retour. Quand l'ange a dit... aux disciples, mais pourquoi vous regardez comme ça le Seigneur partir à l'ascension ? Il va revenir de la même manière, poser ses pieds sur le mont des Oliviers.
Mais c'est pas faux. C'est pas faux parce que, comme disait la note de Pierre, parce que le jour du Seigneur, c'est vrai que c'est une abréviation qui parle du jugement de Dieu.
Donc, ça n'a rien à voir avec ce retour au mont des Oliviers.
Ça appartient au jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, après, peut-être il faudrait faire une étude là-dessus. Parce que le jour du Seigneur, on peut voir peut-être dans d'autres passages bibliques, en fait, il démarre déjà avec la grande tribulation. Hein. C'est déjà le début du jugement, la grande tribulation, c'est déjà le jour de la colère de Dieu. Donc après, ça peut être une époque qui est plus étendue que simplement un phénomène précis. Mais le jour du Seigneur, pour faire simple, c'est le jour du jugement. Okay. Et puis, c'est vrai que déjà, au travers de la grande tribulation, Dieu va juger aussi les nations. Hein. Il y a déjà une notion de jugement qui s'abat sur la terre. Les coupes de la colère de Dieu, c'est déjà un jugement sur les nations.
Hein. Quand il y aura la fameuse marque de la bête.
Voilà.
Déjà ça, il faut...
Ouais.
dire aux chrétiens de ne pas prendre ça, parce que ce genre de truc, je suis sûr, enfin, dans mon avis, il y a des chrétiens qui vont dire, ben, Dieu est bon, de toute façon, je la prends. Mais là, c'est grave.
Alors, ben, on espère qu'on ne sera plus là.
Hein. Bon, nous, on risque. Hein. Ouais. Plus jeune que moi. Donc,
là, peut-être le Seigneur sera venu nous chercher avant. Dans sa grâce. Hein. Enfin, bref. Alors, je vous propose... On verra, ouais.
Ouais. On s'en parle à l'avance, hein. Demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Déjà.
C'est ça, c'est ça, c'est vrai.
Mais bon, il y a des signes précurseurs.
Ah oui, 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 alors non, mais les temps avancent.
Si mais n'oublions si pas que quand le Seigneur revient, c'est d'abord nous les chrétiens qu'on passe au tribunal de Christ.
C'est ça.
Alors gardons pas les autres.
C'est vrai. C'est bien que tu lances le sujet parce que vous verrez, c'est un peu le sujet aussi de ce dernier sous-chapitre.
Le tribunal de Christ, on n'a pas jugé, c'est nos œuvres qui sont jugées, c'est pas nous. Puisque Christ a été jugé à notre place. Oui, oui, mais ça n'empêche pas la sanctification. Hein. Ouais.
Mais chez Denner, par exemple, quand vous avez un ticket de Denner, vous avez pris une commission, c'est marqué 666. Tous les tickets de
Denner, les tickets,
machin, c'est 666, ça démarre là-dessus.
Pas que Denner. Hein,
non, mais les autres, les autres, je ne l'ai pas vu, mais Denner, je l'ai vu précisément. Si, ça continue comme ça, pas plus d'autres du monde.
Alors, on se lance là, peut-être Pierre, et on va une fois dans l'autre sens. Chacun lit deux versets jusqu'où on arrive à la fin du chapitre.
Alors, depuis le 10, on a dit.
Voilà, le 11.
Le 11. Puisque tout le monde doit être, tout notre monde, pardon, doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez. Et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments en brasse refondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.
Je vais traduire, monsieur Portugais. C'est pour cette raison, bien-aimés, en espérant ces choses, encouragez-vous à être dans la paix. Sans tâche et irrépréhensible, et ayant pour le salut la longanimité de notre Seigneur, et comme notre aimé, bien-aimé Pierre et Paul nous a déjà écrit selon la sagesse qu'il lui fut donnée.
Amen, merci.
16.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et des personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme ils le font les autres Écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis, tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne parliez la ferme position qui est la vôtre.
Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen. Voilà. Donc. Donc au verset 11, hein, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. En effet, hein, nous on sait que ce monde va passer, ce monde pourtant qui est bien réel. Hein. Nous savons bien sûr, tout être humain, à part celui qui a des gros problèmes psychiques, c'est qu'il va mourir. Hein. Mais nous on sait que cette terre, elle va passer. Et puis qu'elle va passer dans un temps peut-être beaucoup plus proche que ce que vous diront les scientifiques. Hein. Les scientifiques qui vous diront « Oh, mais alors il y en a encore pour 150 millions d'années de lumière, de soleil, on n'a vraiment aucune crainte à avoir, on est là encore pour des millions et des millions et des centaines de millions d'années. » Ben, nous, on sait que ce monde sur lequel on se trouve, cette terre sur laquelle on est aujourd'hui, hein, on entend ce slogan écologiste, on n'a qu'une seule terre, il faut la préserver et tout. Et nous, on sait que cette terre, un jour, elle va passer. Hein. Ça doit nous encourager à vivre dans la sainteté et la piété. Verset 12, nous attend l'avènement du Seigneur, hein, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Hein. Donc là, on voit que le jour du Seigneur, ça nous parle aussi de cette époque à la fin, hein. Tout à la fin, après son royaume. Hein. Donc c'est quand même une époque, le jour du Seigneur, c'est une époque assez large, hein, au niveau du temps. En tout cas, ça peut correspondre aussi à la fin, après le millénium, mais ça peut correspondre aussi avant le millénium. Ce fait de hâter l'avènement du jour de Dieu, nous l'attendons bien sûr, hein, mais on peut l'hâter, hein, et c'est quand même assez surprenant. Et j'ai été regarder là, le verbe grec, c'est speudo, et ce verbe peut dire aussi, peut avoir un second sens, qui peut dire désirer sérieusement, sincèrement. Et donc, on pourrait traduire comme ça ce verset, tandis que vous attendez, et au lieu de hâter l'avènement du jour de Dieu, on pourrait dire et désirer sincèrement l'avènement du jour de Dieu. Hein? Ce serait une autre traduction qui suivrait aussi le grec, parce que le grec, des fois, ben, comme l'hébreu, les verbes peuvent avoir plusieurs sens. Donc là, peut-être ça nous aide à comprendre. Nous attendons le jour du Seigneur et nous le désirons sincèrement. Hein? Parce que, bon, je ne sais pas, hein, tout d'un coup, après, le Seigneur peut nous parler autrement. Mais je ne sais pas comment on peut hâter le jour de Dieu.
Hein, non, on ne peut pas l'influencer. Ouais. Mais en le désirant ardemment, il peut passer.
On l'attend et on le désire ardemment. Et c'est vrai que c'est une espérance, hein, pour chacun d'entre nous.
On se purifie comme lui-même est pur.
Voilà.
En l'attendant.
C'est vrai que c'est quelque chose qui nous aide à garder la confiance en Dieu, parce qu'on sait que les choses de ce monde sont passagères, hein, elles vont se dissoudre un jour, et puis que ce n'est pas sur cette terre qu'on va forcément, sur le temps que nous vivons actuellement, en tout cas, recevoir toutes les bénédictions. Hein. Si on pense par rapport aux maladies, aujourd'hui, un chrétien peut être malade. Dieu peut nous guérir, mais pas forcément, hein, c'est un mystère. On a la foi, on croit que Dieu guérit, mais c'est pas toujours le cas. Nous avons cette espérance. Il y a des gens dans la maladie, ils ont l'espérance. Là, j'entendais le témoignage d'un monsieur qui est tombé d'une échelle et qui s'est retrouvé en chaise roulante. Et puis, il encourageait, il disait, il faut jamais perdre la confiance en Dieu. Parce qu'il sait que lui, un jour, Dieu le relèvera. Il parlait pas par rapport au temps présent, mais pour la suite, hein, nous avons cette espérance. Et, bon, bien sûr que Dieu peut guérir aussi quelqu'un et puis le relever de sa chaise roulante, hein, mais je pense que vous m'avez compris. Je pensais de l'autre côté, je me disais, mais des fois on peut vivre des choses tellement difficiles qu'il se peut qu'un chrétien soit peut-être même découragé par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que des fois, on peut traverser une épreuve tellement difficile qu'on a peut-être, à un moment donné, on n'a peut-être plus l'espoir de l'éternité. Tellement, tellement la chose est douloureuse dans notre présent. Et puis ça, je pense que Dieu peut comprendre. Hein, si à un moment donné, il y a cette espérance qui est peut-être étouffée pendant un moment. Mais on comprend, hein, on ne va pas juger un frère puis dire « Ah, oh, mais non, mais écoute ce que tu as eu, de toute façon... » Tout n'est que passage, tout va que se dissoudre. Je pensais à ça. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance qui malheureusement est décédée lundi de cette semaine. Là, il a fini écrasé sous une fourgonnette. Il était, ça faisait 2 ans qu'il était à la retraite, 67 ans. Il avait remis son garage à son fils. Et cet incident, je ne sais pas, mais il s'est passé peut-être sous les yeux de son fils. Parce qu'il y a une cellule de crise de soutien psychologique qui était aussi mandatée là-bas. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que son épouse, leur appartement était au-dessus du garage. Donc, est-ce que l'épouse a aussi vu cette scène? J'en sais rien. Hein. C'est des chrétiens. Toute la famille est chrétienne, le monsieur était chrétien, son épouse aussi, son fils aussi. C'est vrai que quand on vit des choses comme ça, on n'arrive pas forcément à se projeter par rapport à l'éternité. Hein, on peut être troublé et ne pas comprendre. Hein, une vie de travail, 2 ans de retraite, et puis vous finissez de manière terrible sous une fourgonnette. Hein, je ne connais pas les détails, mais il avait soulevé, semble-t-il, cette fourgonnette avec un chariot élévateur, et puis ça a dû basculer. Voilà. Il y a des moments dans la vie, peut-être on a par les souffrances, on peut traverser des temps où on aura de la difficulté à garder en vision le futur que Dieu a pour nous. Mais de l'autre côté, des fois, vous pouvez entendre des témoignages. Moi, j'avais écouté un témoignage d'une dame qui venait du Rwanda, et qui avait survécu à un massacre là, pendant la guerre du Rwanda, hein, qui avait été passée à la hachette, la dame, elle avait survécu, c'était plus qu'un miracle. Hein. Et puis elle témoignait qu'elle avait pu pardonner à ses assaillants, hein, ses tortionnaires et tout. Et c'est vrai que c'est un témoignage extrêmement fort. Elle vit ici en Suisse, elle a eu l'asile ici en Suisse. C'est des gens qui gardent une foi et une espérance en Dieu malgré les difficultés.
Mm-hmm. Il y a aussi le cas d'Emmanuel, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. Ça nous dépasse aussi. Hein. On ne comprend pas. On sait que Dieu entend nos prières. Et puis pourquoi Dieu ne répond pas? Hein? On est aussi...
des jeunes mariés, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait.
Le bébé.
Avec tout le futur devant. Mm-hmm. Et puis en effet, on est là dans la compréhension.
Mais qu'est-ce qu'on sait que Dieu répond pas? C'est pas parce qu'il dit pas tout de suite oui ou non. Mm-hmm. Il dit attends, il répond, il entend. Parce que c'est marqué dans la Bible.
Il entend.
Dieu entend quand j'écris à lui. Après, il ne fait pas forcément ce que je veux moi.
Oui, quand je dis répond, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, on aimerait la guérison. Hein, c'est certain. Et puis, je pense encore plus le papa et la famille. Hein. Et c'est vrai que j'avais connu aussi, là c'était dans le cadre de mes études en théologie, il y avait un des étudiants, il avait un de ses amis qui avait perdu son épouse avec leur jeune enfant, c'était à Lausanne, il y avait un gars qui avait pété les plombs, et puis il s'était lancé du grand pont avec une voiture, hein, ça aurait daté à bientôt 20 ans en arrière. Il avait fauché les passants qui étaient sur le trottoir. Et puis après, il avait été projeté dans le vide. Puis lui, il avait survécu parce qu'il y avait une vingtaine de mètres de vide. Mais les gens qui l'ont projeté, les gens sont décédés. Donc là aussi, hein, pour le mari, perdre son épouse, son enfant le même jour, hein, même si c'était des chrétiens, hein, c'est vrai que c'est des fois des situations où on est sans ressources. Hein. Mais pas sans Dieu.
Pour m'expliquer ce que j'ai lu encore hier d'un pasteur chinois qui était tellement persécuté qu'il s'est défenestré.
Ah, oui, au Brésil, ça arrive, ça arrive. Hein?
Un chrétien, donc un pasteur. Hein? Comment expliquer? Tu peux pas l'expliquer. Puis tu veux pas juger, non?
Non. Non. Non, non. Mais ça m'étonne pas parce que moi j'avais pu aller en Inde, là, avec une missionnaire, il y a des gens, des pasteurs dans des provinces en Inde qui sont terriblement persécutés. Il y a eu des morts même. Hein. C'est vrai qu'on croisait quand même des fois des pasteurs qui étaient en santé fortement découragés. Hein. Quand il y a la famille qui est en jeu et tout, hein, c'est pas si simple. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm.
Qui font du chantage sur la famille, justement,
oui,
sur les enfants, on va tuer tes enfants.
Tu reviendras, ta femme sera emprisonnée, on aura 1000 fois ta maison avec les enfants dedans.
Non, c'est pas con. Difficile, difficile.
Mais bon, on attend et puis on désire sincèrement le jour du Seigneur. Et c'est vrai que c'est quand même un privilège de savoir que tout ceci un jour prendra fin. Hein, nous avons un Dieu qui est un Dieu de justice et c'est lui qui rendra justice aussi par rapport à toutes ces injustices hein, qu'on vient de partager aussi juste maintenant. Le verset 13, hein, mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Hein. Voilà. Hein. Et c'est vrai que quand on voit dans le passé combien de chrétiens ont supporté les persécutions terribles, hein, et puis ils n'ont pas renié leur Dieu parce qu'ils avaient cette espérance qui était au-delà de toutes les choses qu'ils traversaient et tout ce qu'ils ont enduré. Et ils avaient cette foi en Dieu. Voilà, c'est des exemples pour nous. Et puis, des fois, nous, on vit un petit malheur et on est déjà en train un peu de tout remettre en question. Hein? Moi, je parle pour moi. parce qu'il y a quelqu'un, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Ou je ne sais pas. Hein? Bon, je ne lève pas un doigt accusateur vers Dieu. Mais ça peut arriver. Hein? On peut traverser quelque chose de difficile. Et puis, il y a quelqu'un qui peut un jour aussi se mettre en colère contre Dieu. Hein? Seigneur, mais pourquoi? Et ce qui est triste, mais on ne va pas juger, c'est que des gens, des fois, à cause des épreuves, s'éloignent de Dieu. Ça peut arriver. Hein? Je pense qu'on connaît tous des situations comme ça, où tout à coup, il y a quelqu'un, à cause de l'épreuve, il a lâché au niveau de la foi. Ouais.
J'ai une question, parce que je connais quelqu'un qui pense au suicide, et puis la personne me dit « Ah, mais Dieu ne va pas me juger, parce que c'est pas ma situation. »
Ben, c'est un petit peu alors ce que nous partageait ouais. Pierre par rapport à cette personne qui s'est défenestrée.
Ouais, ce pasteur. Ouais.
Il y a des fois des actes, je sais pas si vous avez vu en France là début de cette semaine, je crois. C'était en France. Oui, c'était en France. Ce papa qui a pris sa fille de 5 ans puis qui s'est jeté d'une fenêtre. Hein, il est une cure de désintoxication et puis il a vraiment perdu la tête. Hein, tout d'un coup, tu sais pas, il y a des suicides, c'est pas prémédité. Tout d'un coup, la personne, ça tombe tellement fort sur elle, et puis elle va faire des choses. Bon, heureusement, la petite fille, elle a eu un fémur cassé. Voilà, parce que c'était du premier étage, c'était pas trop haut. Hein, mais ils auraient habité au cinquième, je pense que monsieur aurait fait la même chose. Hein. Tout d'un coup, il y a des actes comme ça. C'est au-delà de la raison.
Mais Dieu là-dedans, si c'est des chrétiens.
C'est une grande question. Hein.
C'est l'histoire du pasteur qu'a dit Pierre. Mmh. Il était pasteur, le Brésilien.
Mmh. Pas le Brésilien, un
Chinois.
Non, mais c'est un Chinois, pasteur.
Les Chinois, c'est autre chose, ils sont persécutés.
Mais c'est lui qui s'est jeté par le
Christ. Oui. Mais je pense qu'il a eu des pressions tellement fortes dans son église et puis il voulait sa peau. Puis je pense qu'ils ont joué le chantage avec sa famille. Mm. Ils disent, si tu continues, on va tuer ta fille, après ton fils, etc. Donc qui peut résister à de telles
pressions?
Mais c'est marqué dans la Bible aussi, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces.
Ouais.
Après, on ne sait pas ce qui se passe au dernier moment.
C'est parce qu'il se passe dans la tête, ouais, c'est ça. Ouais. Dans la tête de la personne. Mm. C'est mais tout le temps, tout le temps, tout le temps persécuté. À un moment donné, l'être humain, puis Dieu, des fois, il permet certaines choses, on ne sait pas pourquoi, c'est un témoignage.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
On connaît pas la mort.
Ouais, c'est ça, c'est difficile parce qu'on est.
Maintenant, pour nous, je me demande si on ne devrait pas demander davantage le Saint-Esprit qui nous aide à traverser ces moments. Ouais. Mmh. Je me pose la question si on ne devrait pas s'attacher davantage encore à l'Esprit de Dieu, le réclamer, pour être fort. Hein. Parce que moi, je vois bien que quand on est moins bien dans sa peau, on a aussi moins de résistance pour toutes sortes de choses. Mmh. Alors, je me dis que c'est l'Esprit de Dieu qui pourrait nous aider. Je ne sais pas si ce que vous pensez.
C'est juste. C'est l'idée de rester éveillé spirituellement, d'obéir, donc ce qui est aussi marqué. Donc, puis on ne sera pas surpris à l'avènement, au retour de Christ.
Mmh. Voilà.
Mais ça montre aussi, moi j'ai encore une illustration récente du pasteur là, qui a été accusé de... américain qui a été en Turquie, qui avait une église comme pasteur pendant 15 ans
Et puis tout à coup, Erdogan, enfin, et sa troupe là, ont dit qu'il s'était un, que c'était un espion américain. Et puis il y a eu tout un châssis croisé avec Trump, et puis comme il est entouré de certains évangélistes et tout ça, pour le faire revenir de prison. Et après, quand il est venu, il a parlé qu'il y avait déjà de la persécution, aux États-Unis aussi. Et puis il disait que. Que les chrétiens, faites attention de ne pas trop demander le réveil, parce que le réveil, il va se faire par la persécution. Il pourrait se faire par la persécution, parce qu'évidemment, plus les chrétiens sont persécutés, plus ils se rassemblent et plus ils deviennent fervents. Mais malheureusement, on ne va pas demander, nous, une persécution. Hein. On ne va pas demander que le Seigneur nous persécute, ou bien qu'on soit persécuté.
Que le monde nous persécute.
Mais il disait, demandez pas le réveil dans vos prières. Il a dit ça comme ça, mais ouais, ça veut quand même donner une petite image. Quoi. Mm-hmm.
C'est un mystère. Hein. On verra par rapport au jugement, parce que là, de ne pas juger nos frères et nos sœurs dans la foi, on peut penser à Élie, le prophète Élie, hein, qui était fortement découragé aussi, puis que Dieu a dû aller le rechercher de sa caverne.
Il a fait ça, une déprime, une grosse déprime.
Donc ça fait partie de
la... Et pourtant il venait de gagner
une bataille extraordinaire.
Mais t'avais dit, à chaque fois j'ai un derrière une victoire. Jonas aussi.
C'est vrai qu'il est en pleine dépression après un grand réveil en plus. C'est vrai qu'il y avait un grand réveil, il est complètement inattendu, inespéré, et puis voilà, Jonas en dépression.
Mais le pire, vous savez pas c'est quoi le pire, c'est qu'il y a des pasteurs dans nos milieux évangéliques qui disent un chrétien ne doit pas être dépressif.
C'est facile à dire.
Des pasteurs qui nous disent. Ah, un chrétien, non.
Il n'a pas lu l'histoire d'Élie.
Voilà.
Et puis, quelqu'un qu'on connaît très bien.
Dieu qui marche avec Dieu. Il a eu peur. Après, elle l'a menacé de mort. Puis, à un moment donné, on ne peut pas se mettre à leur place.
Non.
On ne sait pas ce qu'on ferait. On sait que Dieu nous aide. Au moment, il nous dit qu'il parlera à notre place aussi. Mais... on ne sait pas physiquement comment on est, psychologiquement à ce moment-là.
On a un exemple dans la Bible. Étienne, quand il a été lapidé,
il
voyait une échelle, le Seigneur qui montait au ciel. Pendant qu'il souffrait, on le lapidait. Donc Dieu, par son esprit, lui a donné la force, le courage pour le relever et pour lui montrer vers quoi il allait. Pas tout le monde voit
debout,
ça.
Il le voyait debout à la droite de Dieu pour l'accueillir.
Donc tu es d'accord, dans la Bible c'est mentionné comme ça concernant la lapidation d'Étienne.
Achille,
c'est
avec Jacob.
Étienne, il a vu Jésus debout. C'est la seule fois qu'il est debout.
À moins que dans la version de Jean, j'ai une échelle.
Ah, une échelle. Il n'y a pas une échelle qui marche.
Non, c'est Jacob.
Ah, Jacob, oui. Et puis Étienne, il voyait quoi, lui?
Il a bien vu
l'illumination, là.
Si je me trompe, mais il l'a vu debout, ça veut dire qu'il est...
Voilà, c'est ça, Étienne.
Ouais. Mais on ne peut pas savoir au moment... Déjà, on a déjà de la peine maintenant. Certaines fois, quand on est mal fichu comme ça, on est axé sur nous-mêmes. Et puis on pense, après coup, à demander à Dieu l'aide au lieu de... Puis on va vers les médecins d'abord, comme ça, parce que ça dépend quel moment, comment on est psychologiquement. C'est vrai, c'est pas...
Il y a aujourd'hui, la psychologie, elle le reconnaît. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Il y a l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire, la personne qui a vécu un traumatisme fort peut vivre un état de stress... mais bien après. Et puis il y a besoin d'une guérison intérieure pour que la personne retrouve confiance dans la vie. Ça fait partie de ce que peut traverser une personne.
On a des êtres humains comme les autres, chrétiens ou pas, on a le même processus du corps.
Voilà.
Hein.
Oui, ça il ne faut pas...
On l'oublie.
Psychologiquement, c'est vrai qu'on est fait dans le même moule.
On se dit on est chrétien, ça ne doit pas arriver, penses-tu? Dieu, il permet certaines choses aussi pour voir si on l'aime. Et il donne la délivrance comme pas.
Il nous a pas désincarné de ce monde.
Non, hein? Non, non. Autrement, on serait déjà en haut.
On est encore dans un corps qui peut souffrir.
Ah ben, oui, mais la chose est autre chose.
C'est vrai que dans la fin des temps, dans cette fin des
puis
des
l'ennemi, jours, c'est qu'il temps, a pas de temps. Hein.
Voilà, justement, double d'armes. Les chrétiens vont devenir de plus en plus minoritaires aussi, hein, voilà. On a déjà. Hein.
Les vrais.
Il y a même il y en a beaucoup qui disent qu'on va être dissidents, les chrétiens, dans nos sociétés, comme l'étaient ceux qui étaient contre Staline et contre le communisme à l'époque, avec les goulags et tout ça. Il y avait beaucoup d'intellectuels, il y avait beaucoup de gens de tout qui étaient opposés vraiment à cette dictature-là et qui étaient opposés comme ça. Mais qui souffraient, quoi, qui étaient persécutés, on les mettait dans les postes de police, on les malmenait, et après on les mettait dans les goulags. Il dit que les chrétiens vont être comme eux, c'est-à-dire des dissidents. On va être des dissidents, c'est-à-dire que... Voilà.
J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps sur Trump et d'autres, et Trump il est entouré de pas mal d'évangéliques, et comme c'est marqué dans la Bible, que dans les derniers temps, les gens vont se chercher des docteurs pour leur dire ce qui leur plaît. Et Trump dit à ces gens-là, ces évangéliques, vous nous dites ce que nous avons envie d'entendre. Donc, c'est déjà en train de...
C'est pas d'aujourd'hui, je pense, hein, en politique, que des fois les gens s'entourent de personnes pour avoir un joli vêtement extérieur. Hein. C'est pas le premier président américain ou d'ailleurs. Hein,
Le gros de blessure, c'est bien sympa, mais après...
Ouais, alors oui, il faut voir en effet ce qu'il y a derrière, après. Alors, je relis juste le verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. » Verset 15. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est intéressant, là, juste de voir que la patience de Dieu est notre salut. Donc, ce n'est pas la patience en premier. On pense souvent, Dieu est patient parce que pour les perdus qui sont autour de nous. Là, c'est quand même intéressant de voir ce que dit la Bible de ce passage-là. Dieu est patient, notre Seigneur est patient pour notre salut, hein, pour nous, parce que Dieu, on n'a pas fini avec nous, parce qu'il continue à travailler dans nos vies. Et Dieu est patient pour continuer à faire son œuvre en chacun d'entre nous, afin qu'il puisse grandir et qu'on puisse prendre le chemin que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. C'est vrai que c'est étonnant. Hein? Dieu n'est pas seulement patient par rapport aux perdus, mais il est patient aussi par rapport aux croyants. Hein? Donc ça montre que nul n'est parfait le jour de sa conversion. Hein, c'est un processus. D'ailleurs, vous rappelez, parce que je ne sais pas si on aura juste le temps après de faire un petit résumé de l'épître, mais ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. Hein, on voit bien que c'est un processus. Et puis, dans ce processus-là, Dieu est patient aussi envers chacun d'entre nous.
Oui. Le verset 14, ici, dans la version, c'est intéressant. Il dit c'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche. Et puis, Dieu est patient envers nous parce qu'il sait qu'on doit faire tous nos efforts et que ça prend du temps. On n'arrive pas comme ça à les faire, les efforts. C'est le verset 14, là, dans cette version. Hein, c'est la version... Considérez bien la patience de notre Seigneur et votre salut. On doit faire tous nos efforts pour...
Être irréprochable.
Voilà. Irréprochable.
Dans la paix.
Oui.
Mais c'est vrai que si on est dans la paix, ça témoigne qu'on est en confiance avec Dieu, qu'on est en communion avec le Saint-Esprit, hein, parce qu'Anna nous parlait du Saint-Esprit, parce qu'on ne va pas être dans une paix humaine, c'est une paix qui vient de Dieu. Donc c'est une paix qui nous est donnée par le Saint-Esprit.
Faire tous nos efforts sans l'aide de l'Esprit, on n'arrive pas.
Donc, juste, moi, j'avais envie qu'on lise, parce que là, Pierre, il dit, donc, verset 15, hein, je relis, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Je lis encore verset 16. « c'est ce qu'il a fait, pardon, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celle des autres écritures, pour leur propre ruine. Hein? Et c'est vrai que voilà, Pierre reconnaissait que Paul, il y avait des passages difficiles à comprendre, mais qui étaient attachés au salut. Et puis c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer, si on peut, alors on étudiera plus en détail ce passage puisque c'est dans l'épître aux Romains, puis c'est l'épître qu'on va étudier par la suite. Mais on pourrait prendre, par rapport à ce que dit ici Pierre de son frère Paul en lien avec le salut, on pourrait prendre Romains 2 et puis lire les versets 2 à 11. Ça concerne le salut. Alors, l'épître aux Romains, vous le verrez, hein, c'est vraiment une épître. Le thème central, c'est le salut, hein, et la justice de Dieu qui peut s'acquérir par la foi, hein, et par la foi seule. Donc, Romains 2, versets 1 à 11. On peut continuer à la lecture. Tu as commencé, Claude,
hein, ouais. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Verset 3.
Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude?
Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle, mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à la justice.
Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. D'acceptation, oui, pardon. D'acceptation.
Et après, Georges, c'est la suite ce qu'on avait discuté l'autre fois de Romains 2, depuis le verset 12. Ceux qui n'ont pas l'avoué.
C'est ça, c'est le 12 maintenant,
ouais.
C'est ce passage-là, 2-12.
Ouais.
Ah, tu l'avais trouvé déjà?
Oui,
tu l'as trouvé.
Je t'ai envoyé un message.
Ah, j'ai m'a pas lu encore, il faut que je joue.
Il faut ouvrir ton téléphone.
Non, ou ma tablette, tu veux dire. Ah, tu as envoyé à ma tablette.
Oui, oui.
Ouais, tu vois, moi, je suis abonné au fixe. Hein. Alors, j'ouvre une fois tous les tremblements de terre, ma tablette.
Voilà, enfin, bref. Tu pourras l'approfondir.
Et alors, ah ben, ah, tu as donné alors 2-12 alors. Ouais. Ah ben, je vais le retrouver sur le matin alors, 2-12.
Donc, on voit dans ce passage, hein, l'importance de ne pas juger. Parce que si on revient sur la discussion qu'on avait avant d'une personne qui est chrétienne et qui est suicide, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que si on juge comme ça, crac-boum, ben, on peut aussi blesser l'entourage et puis faire beaucoup d'effets inverses que peut-être ce qu'on aurait eu envie de partager autour de nous. Et y a des choses qui nous dépassent. On voit pas la vie d'un être humain du commencement jusqu'à la fin. Et Dieu même nous appelle à aimer nos ennemis. Hein? Donc c'est vraiment une attitude différente. Mais bien sûr qu'on peut que s'attrister si un chrétien met fin à ses jours, mais de l'autre côté, voilà, on n'aura pas forcément la réponse. Ou peut-être, hein, le Saint-Esprit peut nous parler dans cette situation. et puis peut-être peut nous donner de comprendre la raison. J'en sais rien, ça peut, hein, si c'est quelqu'un qui nous est proche. Si vous perdez un parent ou un enfant, ça peut arriver, hein, malheureusement. Une famille chrétienne, un enfant qui suicide. Hein, ça peut.
Je connais une famille de chrétiens dont un des enfants s'est suicidé. Mmh. Et des chrétiens fidèles, des chrétiens. Mmh. Peut-être justement trop légalistes, qui étaient trop à cheval sur les principes, strict, sur les choses. Et, mmh. et un des. Moi, j'imagine que c'est. C'est dû aussi à un excès de pas de parole de Dieu et puis tout ça, mais de tu dois pas faire ça, tu dois faire
trop
ça,
gardé.
Etc. Mmh.
Trop garder la personne. Mmh.
Donc on regarde bien ici, ne pas juger, on est bien d'accord, hein, d'après ce qu'on vient de lire, mmh. tout ça. Mais entre juger et constater mmh. le comportement des gens, voilà. il y a quand même... Parce que dès que tu te mets à constater... un style de vie ou un comportement qui n'est pas correct d'après la Bible, mm-hmm. si on te dit que tu le juges alors que tu fais une constatation que ce n'est mm-hmm. pas normal, tu ne le juges pas. Alors tu ne dois rien dire, tu dois dire « Oh, laisse-le tu constates qu'il vit mal, mm-hmm. tu constates qu'il n'est pas en ordre avec la parole de Dieu, mm-hmm. tu constates qu'il n'est pas avec ses frères et sœurs, ça ne joue pas. Alors tu dis quoi ? Alors pour ne pas le juger, je ne dis rien. Tu es obligé, tu constates cet état de fait. Alors comment on peut tout d'un coup interpréter, ne juger personne, ne nous jugez pas. Si on constate le mode de vie de certains...
Oui, constate, c'est pas juger.
Ouais, non, mais ouais, parce que tu portes un jugement sur quelqu'un en constatant, non
si tu parles mmh. à non, pas spécialement, si tu lui dis pas, ou si tu lui dis mais que tu pries avant, et que tu dois quand même avertir avec amour...
Mmh. Mais c'est pas juger ça, disant de lui dire ah tiens écoute non, quelqu'un peut se sentir mal à l'aise.
Oui, mais
quand
ça
tu lui fais des reproches qui se comporte mal ou quoi que ce soit, mmh. il peut être mal à l'aise, il peut se sentir mal à l'aise, il peut être dérangé, et puis il peut se dire tiens tu es en train de me juger, alors qu'à la place on le juge pas, on essaye de l'éclairer ou de l'aider ou de revenir.
C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. S'il te dit que tu dois aller vers ton frère et puis lui dire ça, il automatiquement il aura ouvert son cœur pour recevoir.
Quand il est ouvert, parce que quand il n'est pas ouvert, il se la prend mal. Hein.
Voilà. Bon, c'est l'histoire de proverbe, là.
Il faut qu'on soit patient aussi. Là aussi, il faut être patient. Si on voit quelque chose, pas tout de suite foncer dedans et dire, parce que là, c'est le jugement. Mais si Dieu il nous pousse, mettre à cœur pour dire quelque chose à quelqu'un, il va préparer le terrain de la personne, il va nous préparer nous.
Pour mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs.
C'est vous, ça.
Proverbe 27.
Ça, c'est Proverbe 27, versets 5 et 6.
C'est Judas avec Jésus.
Alors, dans le commentaire, moi, j'avais souligné, parce que ça m'a assez interpellé depuis pas mal de temps, « Qui peut préférer les blessures d'un ami aux baisers d'un ennemi ? Celui qui tient compte de la source, un ami qui a vos intérêts à cœur, peut devoir vous donner un conseil désagréable, mais vous savez que c'est pour votre bien. Un ennemi, en revanche, peut murmurer de douces paroles et vous envoyer à la ruine sans aucun scrupule. Nous avons tendance à n'écouter que ce que nous voulons entendre, mais si c'est un ennemi qui le dit, même si c'est un ennemi qui le dit, pourtant le conseil, même douloureux, d'un ami est de loin préférable.
Je crois que quand on juge une personne, juger, je crois que on va parler à quelqu'un d'autre, on va parler directement à la personne. Parce que je vois que ça comme ça, moi j'ai de la peine avec ça, je dois travailler là-dessus. Mais... Je vais pas voir la personne disant t'as fait ci ou ça quoi. Souvent c'est le truc
une voix détournée.
Ouais, tu vas dire ouais, écoute, ouais, tel machin, il a fait ça, tout ça. Voilà, tu juges la personne. Là, tu juges et puis c'est la chanceté. C'est pas selon l'esprit de Dieu. Ouais. Là, tu fais le travail de Dieu, puis tout le monde t'envie.
Mais l'être humain, il est systématiquement comme ça, Marc. Nous cachons pas, hein. Nous ne cachons pas. On est comme ça.
On est trop.
La vérité, c'est ça.
Et quelquefois, si quelqu'un réagit fort, c'est parce qu'il a été touché.
Et voilà. C'est pour ça que je suis intervenu.
Allez voir une personne qui va que de la peine et tout. Tu vois qu'il est en train de. Quelqu'un qui fait l'acte homosexuel, puis il ne sait pas que c'est anti-biblique. Tu lui dis, écoute, dans la Bible, c'est marqué que les hommes vont avec les femmes, etc. Si tu ne le dis pas, Déjà avec un manque d'amour, voilà, c'est un extrême, mais voilà.
Oh, mais ça, il le sait déjà, hein. Mais il
non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, hein, même chez les chrétiens. Hein,
ils parlent d'homosexuels.
Oui, mais oui,
ils savent ce qu'ils font. Hein.
Oui, mais il y a beaucoup de confusion.
Il y en a certains qui vont penser
mais bien sûr, parce que comme présente la société aujourd'hui l'homosexualité,
c'est accepté par l'État.
Bien sûr.
C'est accepté par l'État.
Mais c'est même béni dans certaines églises.
Oui, oui, certains pasteurs.
Mais oui, ils vont lui faire une loi que ce sera punissable.
Voilà,
c'est ça.
Si on les critique, on peut faire de la prison. Voilà. Oui. On peut faire de la prison si on
les critique. Même pas critiquer, mais si on n'est pas d'accord.
Ouais, déjà ça.
Voilà. Qu'on l'exprime.
C'est comme le truc.
On exprime qu'on n'est pas d'accord. Ouais.
Si tu n'es pas quelqu'un à mourir, tu peux être embêté.
On n'a pas le droit de dire quelque chose.
Et ça, on peut dire que c'est de la persécution. Déjà. Ouais. Oui. Si on peut plus s'exprimer, si on est muselé, qu'on peut plus s'exprimer sans recevoir un procès pour avoir dit qu'on n'était pas d'accord avec quelque chose.
Aux États-Unis, il y a eu un chrétien qui a eu un procès, il était boulanger, il n'a pas voulu faire un gâteau pour deux homosexuels ou deux femmes, je ne sais plus, et il a dû faire de la prison parce qu'il n'a pas voulu.
Mais il
a
été réhabilité par la justice après.
Oui, mais n'empêche, il a été en prison parce qu'il ne voulait pas, il refusait en tant que chrétien, il ne pouvait pas faire un gâteau. Il dit, il y a d'autres boulangers qui le feront, mais moi je ne peux pas avec mes convictions de foi. Eh ben, il a fait de la prison à cause de ça, parce qu'il a refusé, il n'avait pas le droit de refuser. Ça va loin, hein? Ça va loin.
Et comme tout ce qui est aux États-Unis arrive chez nous.
Eh ben voilà. Et puis rapidement. Les mauvaises choses arrivent plus rapidement que les bonnes.
Alors le jugement, pour peut-être faire un résumé comme ça, c'est manquer d'amour envers un frère et puis chercher la petite bête, hein, qui chercher le petit détail qui irait pas et puis le juger par rapport à ça. Mais en effet, si on voit qu'un frère ou une sœur vit dans le péché, ben, que Dieu nous donne les paroles justes, parce qu'on ne doit pas non plus accepter ça et puis prendre ça comme une norme dans l'Église. D'ailleurs, c'est ce que disait Paul aux Romains, hein, de ce qu'on vient de lire, hein, réservant verset 7, Romains 2, verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il y a quand même quelque chose, il faut persévérer. C'est pas juste comme ça, oh bah tant pis, ma foi, il vit dans le péché, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas du tout ce que dit la Bible, hein. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Si quelqu'un est rebelle à la vérité, il va dire, oh ben non, ceci c'est plus un péché, il faut vivre avec notre époque quand même, il faut être un peu souple. Et puis voilà, ça peut témoigner sur son cœur qu'il y a vraiment un grand souci de par rapport à sa... à son attitude envers Dieu et envers la parole de Dieu. Donc voilà. Hein. Et puis, c'est pour ça que je profite, comme ça on peut finir ce soir quand même ce chapitre de 2 Pierre 3. Je reviens dans 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Hein? Voilà, hein? Ça conclut bien un peu le partage qu'on vient d'avoir. On doit rester dans la fermeté, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Pasteur, je peux voir Ézéchiel 3, 18, où c'est marqué, si tu dis au pervers, etc. C'est Dieu qui parle. Il faut avertir, si tu dis rien, je vais être embêté.
Ah oui, c'est la sentinelle, hein.
Ouais.
En effet, hein.
Après, c'est pas tout ce qui va pas. Hein. Si tu dis pas, ben.
Ézéchiel 3:18. Quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parle pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Hein, en effet. Hein.
Dans les proverbes, là aussi, si on ne corrige pas le méchant, il n'apprendra jamais la vérité. C'est dans les proverbes.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on a ce rôle de sentinelle aussi. Et voilà, hein, le Seigneur peut aussi nous utiliser par rapport à ça. C'est pas jugé. Mais en même temps, de l'autre côté, on sait que Dieu nous aide, hein, parce que ouais, on doit rester dans la foi, persévérer sur ce chemin qui est pas tous les jours facile. Et puis que voilà, que Dieu nous donne l'humilité aussi, si on doit partager avec un frère ou une sœur sur un point difficile, ou peut-être qu'on a vu qu'il y a un péché, que Dieu nous donne l'amour, et puis qu'on se rappelle que nous-mêmes on est des êtres fragiles, hein, et qu'on ne sait pas forcément par où sont passés les gens et pourquoi des gens, peut-être aujourd'hui des chrétiens, se trouvent dans une telle crise. Ouais. Ça ne veut pas dire que, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit tout excuser. Hein. Mais voilà, on garde la foi aussi pour les gens qui traversent aujourd'hui peut-être un temps de crise. Et puis on espère que le Seigneur les rattirera à eux.
Mais on voit qu'on vit la décadence totale de nos jours. Plus ça va de l'avant, il y a une décadence avec cette mondialisation russe, mais générale. Parce que si on parlait des homosexuels et compagnie actuellement qui sont reconnus, c'est nous qu'on est des fautifs, pas eux. Mais si tu prends au Moyen-Âge et puis à la Renaissance, ils étaient punis de mort, hein, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Ils allaient à l'échafaud, hein, ou bien ils étaient brûlés vifs à l'époque. Hein. Maintenant, c'est eux qui vont nous brûler à nous maintenant. Hein. C'est le contraire.
C'est comme l'Empire romain, hein, quand ils brûlaient les chrétiens. Ils les mettaient dans la fosse aux lions, hein, c'est ça.
Les crucifixions, ça, tout ça.
Ça change, hein, c'est sûr. Mais bon, d'un autre côté, nous les chrétiens, bon, c'est vrai, on déploie tout ce qui est mal, tout ce qui a été, tout ce qui est mal dans actuellement. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est le privilège qu'on a, nous, en tant d'être chrétiens, puis d'avoir été éclairés, puis d'avoir cette espérance. Et puis, mais ce problème, c'est de l'avenir, effectivement.
J'avais une question, si vous permettez.
Alors, dernière question.
J'ai une question, si vous permettez, parce qu'il y a quelque chose qui m'a ébranlé quand même. C'est que quelqu'un a expliqué qu'il y a aussi beaucoup d'homosexualité parmi les animaux. Alors, ceux-là, comment on les juge?
Parmi les animaux?
Comment ça, les animaux, ils n'ont pas pêché.
Bah, beaucoup, déjà, beaucoup, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'extraordinaire. Hein. Et puis, après on pourra toujours trouver plein de prétextes. Et puis voilà.
Oui, mais les animaux aussi étaient déchus, ou bien
oui, les condamnés ont été déchus. Pour toute la création, été déchus à cause de
la création. Ça résume tout. Ça veut dire, de toute façon, ils n'ont pas conscience, les animaux. Ils n'ont pas la conscience de l'homme. Et puis Jésus n'est pas venu sur terre avec
pour sauver les animaux. Apporter le salut.
Voilà. Après, il y a ceux qui disent que les animaux vont au paradis comme moi, puis d'autres qui disent que tout est fini à la mort. Voilà.
Ils disent qu'on se réincarne.
Ça, c'est les animaux.
Dans les animaux.
Ça, c'est les animaux.
C'est un petit cochon.
Oui, oui.
Alors, bon, je veux dire, bon, il y a l'homosexualité, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. On n'est pas là non plus pour juger ces personnes-là. Et puis on doit les porter dans la prière, puis elle les aimer comme ils ont entre guillemets, on doit pas non plus les pointer du doigt, hein, parce que de toute façon on est tous pécheurs.
On doit les aimer, mais on doit être ferme dans nos convictions.
Ça, c'est voilà, tout à fait.
On a tous besoin de la grâce.
Ouais.
On est tous des grâciers.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va devenir des fois compliqué parce que, suivant notre attitude et nos paroles, on peut se retrouver avec des problèmes juridiques.
Ah oui, ben oui.
Maintenant, de nos jours, oui.
Tu dis, ben, je vais te foutre une baffe, t'es pas
c'est ça, oui. Maintenant, ils ont voté une loi, mais ça, c'est déjà la France, c'est pas chez nous si c'est déjà le cas. Mais en tout cas,
ils viennent de voter
comme quoi la fessée est interdite.
Ah, mais même menacée.
Donc ça veut dire que l'État maintenant arrive dans les familles. Ouais, c'est plus la famille qui veut dire que les enfants, c'est l'État qui prend, qui s'approprie les enfants. Et même avec les. Aussi maintenant, l'éducation sexuelle. Déviante qu'on va donner aux enfants de 3 ans.
Obligé, c'est obligé.
Voilà.
Et mes petits enfants disent Berck, c'est horrible, on ne veut pas savoir, ça ne les intéresse pas. Ouais. Mais ça doit être.